réplique « Où va Israël ?» avec Martine Gosselin et Jean-Pierre Filiu. J'ai appris, en lisant l'essai de Martine Gosselin, Israël 70 ans, que la romancière israélienne Orly Castelblum devait son prénom, très répandu chez les quinquagénaires, à ce qu'on disait dans les années 1960, du bon accueil réservé aux ressortissants israéliens dans l'aéroport français. Ce temps est révolu. Les choses ont bien changé. La sympathie teintée d'admiration pour Israël n'est plus de mise. L'image de ce pays s'est terriblement dégradée, comme en témoigne notamment le dernier livre de Jean-Pierre Filiu, « Main basse sur Israël ». Cet ouvrage, très documenté, est un implacable réquisitoire. Et ce réquisitoire vise un homme en particulier, celui qui, en faisant main basse sur Israël, a mis fin aux rêves sionistes, c'est, dites-vous, Jean-Pierre Filiu, Benjamin Netanyahou. Pourquoi cette personnalisation de la critique? Qu'est-ce qui distingue le Premier ministre israélien, éternel candidat à sa réélection, de ses prédécesseurs, de gauche comme de droite? Quel mal, enfin, a-t-il fait à l'État juif et à ses voisins? Jean-Pierre Filiu.
Alors, Benjamin Netanyahou, c'est lui qui personnalise. Et donc, cette réflexion sur le sionisme dans la longue durée, elle choisit Netanyahou comme fil rouge. Et on le voit avec l'actualité la plus récente, qu'il personnalise tellement sa pratique du pouvoir qu'il préfère dissoudre la Knesset, le Parlement qui venait d'être élu, plutôt que de risquer de ne plus être Premier ministre. Donc dans quelques jours, quelques semaines, Netanyahou va battre le record de longévité à la tête du gouvernement d'Israël, qui était jusque-là détenu par son fondateur, David Ben-Gourion. Et je pose Netanyahou en refondateur de l'État d'Israël, justement par rapport au fondateur qui était Ben-Gourion, et en même temps en accapareur du capital symbolique, politique, culturel, formidable de cet État, au profit de sa propre ambition, mais aussi de sa vision. Je le crédite d'une vision stratégique, alors que la plupart de ses opposants l'assimilent à un démagogue plus ou moins cynique et manipulateur. Je crois au contraire qu'il est animé par une vision, et c'est cette vision qui aujourd'hui, d'après moi, sanctionne la fin du rêve sioniste, en tout cas du rêve des pères fondateurs de l'État d'Israël.
Et quelle est cette vision, Jean-Pierre Filiu?
Bien, déjà, il y a une rupture avec la diaspora, que l'on ressent peut-être moins en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est très douloureuse, elle est très profonde. Il y a eu d'abord le conflit ouvert, public, étalé sur la place publique entre Netanyahou et le président Obama. Président Obama qui avait recueilli la plus importante proportion d'électeurs juifs de l'histoire des présidentielles américaines. Et puis, il y a le choix stratégique, j'insiste sur le mot stratégique, de Netanyahou sur ce qu'on appelle un peu improprement, mais c'est le terme, les sionistes chrétiens. C'est-à-dire l'extrême droite évangélique aux États-Unis pour qui Israël représente l'accomplissement des prophéties, d'une vision tout à fait différente de celle qui animait le mouvement sioniste antérieurement. Et Netanyahou mise, on le voit bien, sur Trump qui inquiète beaucoup les juifs américains pour de multiples raisons, dont la relance de l'antisémitisme aux États-Unis sous son mandat. Et on voit que pour Netanyahou, aux États-Unis, je l'ai mentionné, mais aussi au Brésil, avec Bolsonaro, il y a une alliance stratégique avec les évangéliques, avec cette diaspora évangélique en croissance très sensible, et un certain désintérêt, pour ne pas dire plus, à l'égard de la diaspora, la question emblématique ayant été celle du mur occidental, du Kotel, du mur des lamentations, où l'accord qui avait été trouvé avec les libéraux et les conservateurs de la diaspora aux dépens du rabbinat ultra ultra-orthodoxe, orthodoxe d'Israël, n'a pas été appliquée par Netanyahou, qui a préféré continuer de gouverner sans partage avec les partis religieux.
Et cette alliance stratégique, elle vise à annexer, à plus ou moins long terme, la Cisjordanie. C'est ça sa vision, en fait.
Là-dessus, je suis plus prudent. Je crois que Netanyahou est un homme des faits accomplis plutôt que des ruptures, surtout des ruptures aussi profondes. Pour Jérusalem, c'est clair. Trump l'a complètement soutenu et lui a offert ce qui était d'ailleurs recherché par de précédents dirigeants israéliens, c'est-à-dire cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Sur le Golan, territoire syrien occupé depuis 67, Trump a là aussi accompli un geste tout à fait sans précédent. Netanyahou vient d'ailleurs de le récompenser, si j'ose dire symboliquement, en inaugurant, si j'ose dire, une colonie en carton-pâte, Ramat Trump, les hauteurs de Trump, colonie qui n'a d'autre existence que sur le papier, mais ça a été une belle cérémonie avec gazon synthétique et lettres d'or de Trump. Mais sur la Cisjordanie, Netanyahou est à la fois un stratège et quelqu'un qui, comme politicien, essaie de ne jamais commettre l'irréparable au cas où. Et donc, il a agité la question de l'annexion pendant la dernière campagne, mais on voit qu'en termes de mise en œuvre, il serait sans doute beaucoup plus prudent que les annexionnistes, qui font partie de sa coalition potentielle, ne serait-ce que pour se présenter face au reste du monde comme un moindre mal, celui qui, justement, pourrait calmer plus extrémistes que lui.
Martin Gozlan. Quelle est votre analyse ?
Écoutez, moi je pense, après j'ai lu bien sûr le livre de Jean-Pierre Filiu, je lis toute la presse, y compris ce qui se publie dans mon propre journal, et ce que je vois, c'est que les critiques les plus profondes et les plus acerbes contre Benjamin Netanyahou viennent de l'intérieur même de ce pays que vous décrivez peut-être un peu vite, cher Jean-Pierre Filiu, comme étant entièrement subjugué par cet homme. C'est faux, parce que 15 jours après le prochain scrutin, bis repetita des élections législatives, Benjamin Netanyahou est convoqué par le procureur Avishai Mandelblit pour répondre de plusieurs affaires dans lesquelles il est impliqué. Ensuite, si nous prenons les derniers sondages, on voit qu'il est fort contesté, y compris au sein même de sa famille politique, le Likoud, que même le propre fils de Menachem Begin, Benny Begin, avec qui bon, je me suis entretenue récemment, ne juge pas les actions de Netanyahou tout à fait conformes à ce que devrait être la droite, même la droite classique israélienne. Ensuite, il suffit de lire la presse. C'est la presse israélienne, et il ne s'agit pas seulement de lire Haaretz qui est à gauche, voire à l'extrême gauche, mais toute la presse. Aujourd'hui, un dernier sondage nous le donne, Netanyahou en mauvaise position, il n'arrive pas.
Martin Gozlan, oui. Peut-être n'a-t-il pas fait main basse sur Israël au sens où il recueillerait l'unanimité des suffrages. Il n'empêche, sa longévité au pouvoir est exceptionnelle. Peut-être même a-t-il dissous la Knesset pour empêcher son rival bleu-blanc Benny Gantz d'essayer de former un gouvernement, parce qu'il veut à tout prix échapper aux affaires, donc pour des raisons plus personnelles que politiques. Il n'en reste pas moins que c'est le personnage central de la politique israélienne aujourd'hui. Et la question que je vous pose, c'est-à-dire, y a-t-il chez Netanyahou quelque chose de spécifique ? Est-il différent des autres premiers ministres israéliens ?
Je crois qu'il correspond, il correspond à une évolution de la droite qui s'est durcie et qui s'est laissée déborder par ses extrémistes, et il n'a jamais su en fait former un gouvernement de coalition avec ceux qui sont devenus aujourd'hui l'ensemble, le parti bleu-blanc de Benny Gantz, et il a manifestement raté ce coche-là. Maintenant, si nous regardons sur les mois qui viennent, on ne peut jurer de rien, parce que aujourd'hui, je reviens à ce qui est en train de se passer cette dernière semaine. On voit très bien que la gauche, le Parti travailliste, qui a fait un score absolument lamentable, tente de relever le défi en s'alliant peut-être au Parti Meretz d'extrême gauche. Nous voyons la liste, les députés arabes qui se regroupent autour d'une liste arabe unie, mais on n'a pas l'impression que Benjamin Netanyahou... Je suis désolée, je vais faire une incise. Je suis désolée, en fait, et profondément, de voir que la figure de Benjamin Netanyahou, si vous voulez, en quelque sorte, s'impose comme la représentation totale de tout un peuple dont la moitié le conteste, d'un ensemble national qui ne se reconnaît pas forcément dans cet homme, et que tout propos, toute analyse, tout récit sur Israël, médiatique ou autre, se réfère à l'idéologie de Netanyahou pour porter la flèche sur l'intégralité des Israéliens. Je crois que c'est cela que je voudrais souligner.
En tout cas, c'est pas du tout mon propos. Au contraire, dans mon livre, je montre à quel point il a dû combattre, donc ça veut dire qu'il était combattu, à quel point les résistances sont fortes jusqu'à aujourd'hui, et à quel point, pour la première fois de l'État d'Israël, il diabolise un ennemi intérieur juif. Et à quel point il présente une alliance, bon, les Arabes, je dirais presque ça va de soi, la gauche, les médias, la presse, la police, la justice, ça fait donc quand même beaucoup de monde qui s'oppose à lui avec persistance. En même temps, reconnaissons qu'il avait gagné les dernières élections, même s'il a été incapable de constituer ce gouvernement. Donc, c'est par définition dialectique, c'est-à-dire il est à la fois l'expression de ce qu'est devenu Israël aujourd'hui, en tout cas s'il reste au pouvoir, ce qu'à l'évidence je ne souhaite pas en septembre prochain, mais il est aussi celui qui a transformé la vie politique israélienne et qui l'a profondément américanisé. Et cela depuis déjà des décennies. Américanisé à la fois en termes de ressources financières, c'est très important, c'est des donations financières considérables qui arrivent des États-Unis et qui, elles, sortent du champ de la réglementation publique, et américanisé dans le sens réseaux sociaux, caricature du débat public, slogan en quelques mots, et ça, on y est, qu'on le veuille ou non. Et j'espère très vivement, et je suis convaincu qu'Israël et sa démocratie en ont les ressources, que cette tendance ô combien néfaste sera renversée très prochainement.
Mais alors, juste, on pourrait s'interroger quand même, Jean-Pierre Filiu, sur les raisons de la popularité et de la longévité de Benjamin Netanyahou. Car j'ai dit que votre livre était très documenté, cependant j'y repère quelques manques. Vous parlez de l'intifada Al-Aqsa, mais vous l'imputez à la provocation d'Ariel Sharon, qui en effet est allé sur l'esplanade des mosquées avec l'accord d'Ehud Barak. Simplement, quelques temps auparavant, il y avait eu des négociations à Camp David où les Israéliens semblent avoir fait des propositions importantes qu'Arafat a refusé. Il y a eu aussi des négociations en 2005 entre Ehud Olmert et les Palestiniens où, là encore, les propositions israéliennes ont été refusées. Il y a dans la mémoire de chaque Israélien le retrait de Sud-Liban, unilatéral, qui s'est traduit par une présence très hostile du Hezbollah. Il y a le retrait de Gaza, qui s'est traduit par les tirs de roquettes constants venus du Hamas. Donc, pour beaucoup d'Israéliens, un retrait de la Cisjordanie, ça voudrait dire le Hamas, à plus ou moins long terme, aux portes de Tel Aviv. Il me semble que Netanyahou capitalise sur la peur, peut-être d'ailleurs l'éprouve-t-il aussi, et que c'est ce qui explique son succès. C'est-à-dire que l'intransigeance palestinienne doit être prise en compte également pour expliquer l'enlisement du processus de paix et le succès fait à un homme qui affirme sa fermeté et qui en plus débloque la situation diplomatique d'Israël en nouant des alliances inattendues avec les États sunnites de la région. Jean-Pierre Philippe.
Alors, dans mon livre, je parle très peu du volet israélo-palestinien. Justement, je me distingue là-dessus des réflexions les plus fréquentes en essayant de montrer comment Netanyahou émerge dans la société israélienne, comment il s'impose. Et je parle de la façon dont il s'impose contre Rabin. Hein. Il a quand même beaucoup contribué à la campagne de haine qui a au moins préparé le climat à la assassinat du Premier ministre en 1995, mais j'insiste sur un volet moins connu, qui est sa bataille constante contre Ariel Sharon pour s'imposer au sein du Likoud. Je crois que ce sont des dimensions qui sont moins connues. Au fond, la question palestinienne importe assez peu pour Netanyahou et importe assez peu, on l'a vu, dans l'élection récente. Hein. S'il y a un grand absent du débat public en Israël aujourd'hui, c'est le processus de paix avec les Arabes. Alliance avec les États-Unis, vous me permettrez d'être extrêmement prudent. Les alliances, ce sont des pactes qui s'affichent, qu'il y ait évidemment des ententes plus ou moins discrètes ou secrètes, c'est acquis avec les États du Golfe. En revanche, comme l'essentiel serait la reconnaissance publique, je ne crois absolument pas qu'on va là-dessus. D'ailleurs, s'il y a un chef d'État arabe sur lequel Netanyahou avait misé, c'est le dictateur soudanais Bachir qui est tombé quelques semaines après les ouvertures qu'il avait faites en sa direction. Donc, c'est pas vraiment...
Est-ce qu'il y a un lien entre sa chute et ses
ouvertures ? Non, évidemment que non, évidemment que non. Mais simplement, je signale qu'il ne mise pas forcément sur les bons chevaux dans le monde arabe. Et je souligne à quel point il a laissé, en termes de menaces extrêmement périlleuses pour l'État d'Israël à terme, se développer la présence iranienne en Syrie, du fait d'un aveuglement qui l'a amené à miser sur Bachar el-Assad comme moindre mal. Il n'est pas seul hein, dans ce club des aveugles par rapport à la Syrie, mais le résultat pour la sécurité d'Israël à sa frontière nord est tout à fait calamiteux. Donc, il faut quand même rappeler ces éléments. Hein.
Non, Martine Gosselin.
Oui, d'abord, je voudrais quand même revenir sur un point, on n'en parle jamais, sur le fait qu'Israël, et je me suis rendue sur place, à la frontière syro-israélienne, est venu en aide pendant plusieurs années à tous les réfugiés syriens. J'ai visité les postes médicaux qui accueillaient les réfugiés, pas seulement ceux des villages, mais ceux qui arrivaient des zones bombardées par Bachar. Donc ça, c'est une sorte de volet d'assistance militaro-humanitaire qu'on ne souligne pas assez. Et il est pourtant réel. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur cette question, les raisons de la popularité, et vous aviez raison de souligner le contexte. Oui, c'est vrai. Tout en étant une très grande puissance, Israël a vécu dans un environnement menaçant depuis les origines. Et sa puissance, son développement, ne s'explique que par son extraordinaire capacité de résilience. Tout le développement technologique de l'aviation israélienne, de l'armée israélienne, etc., c'est la résilience. C'est parce qu'il doit toujours faire face à des menaces considérables. Ce sont ces menaces qui ont effectivement, en quelque sorte, poussé la société israélienne, les électeurs israéliens, vers des hommes qui semblaient forts. Et puis, enfin, il faut revenir sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui est quand même une espèce de coupure, de déchirure totale dans l'évolution historique d'Israël. Mais aussi, il faut se souvenir, vous disiez... Les oppositions n'avaient jamais été plus vives, c'est faux. Dans un précédent ouvrage, j'ai rappelé que toute l'histoire du jeune État hébreu, comme d'ailleurs l'histoire du peuple juif, est hantée, traversée par la déchirure, le conflit, le questionnement, l'anathème.
Oui, l'anathème. Alors justement, revenons à l'assassinat de Rabin.
Oui.
C'est un extrémiste juif qui l'a tué, rappelons-le. Et ce crime a traumatisé Israël. Et pourtant, et Netanyahou était partie prenante, vous le rappelez dans votre livre, des campagnes haineuses contre Rabin, coupable de brader Israël avec les accords d'Oslo. Et lui-même n'a pas accusé Rabin d'être un nazi, mais il laissait faire. Vous parlez même, je crois, d'une manifestation. Il était au balcon avec Rivlin, qui est l'actuel président de l'État d'Israël. Et Rivlin, devant la violence des manifestants, était parti. Et Netanyahou était resté. Donc il était quand même très compromis, même si, bien entendu, il n'avait pas armé l'assassin. Or, il a été élu aux élections de 95, je crois,
96.
Contre Shimon Peres, qui apparaissait évidemment comme le successeur désigné
d'Orbit.
Mais il y a une vague d'attentats. Il y a une vague d'attentats du Hamas qui intervenait dans les élections israéliennes pour faire élire le pire dans le cadre de sa stratégie guerrière. Mais il n'empêche que c'est quand même très paradoxal de voir Netanyahou tirer lui-même les bénéfices, si j'ose dire, politiques de l'assassinat de Rabin. Martine Gosselin.
Oui, bien sûr. Mais encore une fois, puisque cette vague d'attentats s'est répétée de façon permanente, c'est-à-dire que les sortes de fixité de l'adversaire, le fait que toutes les solutions, vous le notiez vous-même, aient été rejetées, n'a pu qu'ancrer les Israéliens dans une sorte d'oubli de cette tragédie autour de Rabin, et ils se sont raccrochés à cette figure qui semblait une figure de la constance et une figure de la force. Mais je veux rappeler, par exemple, puisque nous évoquions Jérusalem, qu'en 2008, la dernière proposition d'Ehud Olmert a été bel et bien une cogestion de Jérusalem-Est avec un comité constitué de 5 nations, dont 3 grandes nations arabes. Je ne me souviens plus, la Jordanie était impliquée, enfin je pense que peut-être l'Arabie Saoudite, et que cela, c'était au moment des propositions d'Olmert qui a été le plus lourd. Et ensuite, Olmert, comme vous le savez, a été emprisonné pour corruption. Mais Olmert a été aussi loin qu'on pouvait aller, d'autre part. Donc, il y a eu des propositions permanente jusqu'à la rupture définitive. Donc c'est ce refus, si vous voulez, qui plonge quand même, je le rappelle, très profondément, très loin dans l'histoire, puisque le plan de partage du 29 novembre 1947 prévoyait quand même un État juif et un État arabe, on ne disait pas encore palestinien, et ce plan de partage a été refusé par la partie arabe. Cela, il semble qu'il y ait une sorte d'amnésie historique qui se soit abattue sur ce pan de l'histoire. Et donc, Netanyahou s'est développé, a prospéré sur cette espèce de fin de l'espérance. Mais je ne pense pas d'ailleurs que l'espérance soit terminée. Pas du tout.
Ah bon, on en reviendra. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour expliquer justement par cette anxiété et ce pessimisme existentiel, le succès, en apparence paradoxal, de Netanyahou?
Ah, tout à fait. D'ailleurs, c'est là où je crois que, comme historien, j'apporte une contribution à l'éclairage de ce parcours, de cette personnalité que je crois tout à fait importante, même fondamentale dans l'histoire d'Israël, c'est qu'il représente une vision profondément pessimiste, la vision de l'absence de paix, la vision du conflit permanent, du conflit éternel, du conflit inexpiable. Son père, qui l'a beaucoup influencé, historien lui-même, Benzion Netanyahou, mort à 102 ans, disait que l'histoire du peuple juif est une histoire d'Holocauste au pluriel, ce qui, et je crois, se passe de commentaires. Et donc, on a cette idée de l'impossibilité de la paix, et qu'il faut en permanence créer des faits accomplis. Bon, le maître à penser de cette famille du sionisme, Zev Jabotinsky, donc le sionisme révisionniste, parlait du mur de fer. contraire, où il doit y avoir le plus grand nombre de juifs d'un côté et le plus grand nombre d'arabes de l'autre côté, essayer de le repousser progressivement. Mais je voudrais revenir, parce que le processus de paix, par définition, c'est essentiel, mais je crois qu'aujourd'hui, le vrai processus de paix qui est un défi pour Israël, c'est le processus de paix d'Israël avec Israël. Et je parle évidemment sous le contrôle de Martine Gozlan, qui a consacré un livre à ce sujet. La société Israël est en état de guerre larvée. Les campagnes électorales sont d'une brutalité insigne. On jette en pâture les noms des adversaires. La dernière campagne a battu tous les records d'abjection dans les attaques ad hominem entre Israéliens juifs, ne l'oublions pas. Et c'est ce degré de violence qui est très inquiétant, et c'est sur ce degré de violence que Netanyahou prospère. Netanyahou clive, Netanyahou divise, Netanyahou joue sur l'anxiété, mais pas uniquement l'anxiété par rapport à l'environnement, l'anxiété par rapport aux autres juifs, par rapport à justement un ennemi intérieur juif qui serait soit ONG pacifiste, soit gauche philo-arabe, soit, et là c'est quand même extraordinaire, il faut le souligner, manipulé par George Soros. Alors il y aurait une espèce de grand maître quelque part, qui se trouve être juif, philanthrope et rescapé de l'Holocauste, et aujourd'hui installé aux États-Unis avec ses origines hongroises, et on l'accuse de tous les maux.
On a tort de l'accuser de tous les maux, vous avez raison, mais tout de même, George Soros a fait preuve depuis longtemps d'une certaine distance, voire d'antipathie envers Israël. Il n'aime pas trop l'idée d'un État juif. Sur son agenda, il y a la transformation des nations, quelles qu'elles soient, en société multiculturelle. Et moi, j'étais à New York il y a une dizaine d'années. J'ai assisté à une conférence de George Soros. La violence de sa diatribe anti-israélienne a stupéfié l'auditoire. Alors, bien entendu, ça ne justifie rien des campagnes d'Orban, ni de l'idée qu'aurait Netanyahou, que Soros influence la gauche israélienne, mais son parti pris anti-israélien et même un parti pris anti-sioniste. Ça, quand même, il ne faut pas l'oublier pour dresser un portrait équilibré.
Oui, bien sûr, parce que tout cela prospère sur la délégitimation d'Israël. Et je reviens à ce que je soulignais tout à l'heure, à savoir qu'un homme ne peut pas expliquer à lui seul cet ostracisme qui vise toute une nation et tout un peuple. Par exemple, les ONG pacifistes. Je les connais bien parce que j'ai été l'une des premières à interviewer Yehuda Shaul, qui a fondé l'organisation Briser le silence avec les anciens soldats. Il y a eu toute une évolution des ONG. Par exemple, Yehuda Shaul, que j'ai rencontré à différentes reprises, se refusait à témoigner sur la scène internationale de ce qu'il dénonçait sur la scène intérieure. Pourquoi ? Il ne voulait absolument pas que cette crise féconde, cette sorte de remise en cause qui est inscrite dans l'âme d'Israël, il ne voulait pas que cela soit utilisé, manipulé, instrumentalisé par les ennemis d'Israël. Maintenant, il y a des limites qui ont été franchies et désormais, une autre organisation, B'Tselem, va témoigner devant l'ONU. Or, ces intentions louables qui participent d'un besoin de morale, d'un appel à la vertu qui est inscrit dans les valeurs juives, tout cela se retrouve sur la scène internationale instrumentalisé par des gens qui en fait se fichent complètement de ces valeurs, quand bien même elles sont appliquées au reste des nations. Et c'est cela, ce deux poids deux mesures qui me dérange considérablement.
Oui, c'est vrai. On a l'impression que la critique d'Israël, Jean-Pierre Fidu, a franchi un cap. Il ne s'agit pas plus simplement de pointer l'occupation, mais c'est la légitimité d'Israël qui est de plus en plus souvent remise en cause. Un État fondé sur l'ethnie, sur l'appartenance, au moment même où l'Europe post-hitlérienne se réfère, affirme la valeur du patriotisme constitutionnel, comme dirait Habermas, c'est-à-dire l'adhésion à des normes, à des principes, à des procédures universelles. Et on voit ainsi le devoir de mémoire qui protégeait Israël se retourner contre Israël, comme si Israël était le pays occidental qui n'avait pas tiré les bonnes leçons de l'Holocauste. Et j'ai été frappé par ce qui s'est passé autour de l'Eurovision. L'Eurovision, pour moi, c'est le summum annuel de la laideur acoustique aussi bien que visuelle et de l'uniformité, de toute façon. Mais là, un certain nombre de pétitionnaires du monde entier ont appelé au boycott de l'Eurovision parce qu'elle avait lieu à Tel Aviv, pas à Jérusalem, pas à Hébron, pas à Malé Adoumim, à Tel Aviv. Donc là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire pourquoi l'impopularité, pourquoi la critique d'Israël s'est-elle à ce point radicalisée dans les certains nombres d'instances internationales et dans une grande partie de l'opinion publique, Jean-Pierre Filiu?
Là aussi, comme historien, je suis pas forcément convaincu par votre diagnostic. Si vous prenez l'état d'ostracisme, le mot, je le reprends de Martin Gosselin, il était bien pire contre Israël avant le processus de paix. Donc là, on voit en même temps qu'il y a un défaut, une absence de suivi du processus de paix qui a entraîné effectivement ce type de réactions qui sont diverses, certaines justifiables, d'autres condamnables. C'est pas le propos. Mais si vous parlez de la mémoire, et entre autres de la mémoire de l'Holocauste, là je suis désolé de revenir à Netanyahou et au sujet de mon livre, mais il multiplie les transgressions extrêmement inquiétantes à ce sujet. Et mon livre a été écrit sur la base d'une indignation quand je l'ai entendu. D'ailleurs, il s'exprimait en anglais devant le congressionniste à Jérusalem, c'est déjà tout un symbole, accuser le moufti Husseini, donc le moufti de Jérusalem, antisémite notoire, collaborateur des nazis, il n'y a aucun doute là-dessus, et je le rappelle encore dans mon livre, d'avoir été l'inspirateur de la solution finale. Alors là, c'est quand même assez énorme, et d'ailleurs, ça avait provoqué des réactions très vives en Israël, et de la part d'Angela Merkel, qui avait rappelé que la responsabilité allemande était intégrale et que c'était bien cela qu'on enseignait, non seulement dans les manuels d'histoire, mais aux jeunes Allemands. Et puis après, on a vu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec la Hongrie, avec la Pologne, des réécritures de l'histoire de la Shoah par Netanyahou, qui ont provoqué, chez mes collègues de Yad Vashem, du musée de l'histoire de la Shoah, des protestations indignées, répétées et très nourries. Donc, sur cette question de la mémoire, on est là sur un terrain extrêmement glissant où Netanyahou, en permanence, on va dire, tutoie la ligne jaune pour pas dire pire.
Oui, mais les errements et les divagations de Netanyahou, qui, vous aviez raison de souligner, ont suscité un tollé en Israël, y compris au sein de son propre gouvernement, et de toute façon ne sont pas vus d'un très bon œil par le président israélien Reuven Rivlin, qui n'est pas du tout un ami de Benjamin Netanyahou, et qui aurait souhaité certainement la victoire du leader du mouvement bleu-blanc, Benny Gantz. Ces errements et ces divagations n'explique absolument pas le halo maléfique qu'on accroche à Israël. Je suis extrêmement étonnée, pour ma part, de constater que, encore une fois, il y a deux poids, deux mesures. Cette fameuse affaire du boycott des investissements sanctions.
BDS.
Il est théoriquement interdit en France. Faire la promotion du BDS est interdit.
Néanmoins, c'est-à-dire boycott des investissements sanctions pour tout ce qui vient d'Israël. Et notamment, d'ailleurs, des échanges culturels ou universitaires.
Oui, alors, je suis tout à fait étonnée. Il y a deux éléments sur lesquels que je voudrais, comme ça, deux petites informations que je livre à votre réflexion. D'abord, il y a trois jours, j'ai rencontré Fania Oz-Salzberger, la fille du regretté Amos Oz, le plus grand écrivain israélien. Et Fania, qui venait là pour un hommage rendu à son père, c'est une femme évidemment de la famille de la gauche, de la famille des valeurs morales. Elle perpétue l'espoir, l'espérance et la haute voix de son père Amos Oz. Et elle, là où elle enseigne, à l'université de Haïfa, elle me disait, mais dans ce cas-là, si on boycotte l'université de Haïfa, on boycotte la plus importante proportion d'étudiants arabes, de chercheurs arabes, on boycotte l'inventivité, le dynamisme, on boycotte un espoir de réflexion, un espoir de partage. Et donc, c'est cela qui m'affecte dans l'histoire du BDS. Et encore un élément, pour mon livre, j'ai donc été enquêtée dans les laboratoires de recherche, et notamment dans les laboratoires d'un cancérologue de l'université de Tel Aviv, le professeur Uri Nir, et bien sûr, dans son laboratoire, il y a des chercheurs arabes israéliens, et dans les hôpitaux, alors ils travaillent justement sur la façon de maîtriser la prolifération des métastases. Israël a atteint les chercheurs israéliens, cet Uri Nir est d'ailleurs un homme de paix, ils sont pas forcément d'accord avec Netanyahou. Les chercheurs israéliens ont développé un niveau d'avancée technologique qui fait que régulièrement des missions gouvernementales très officieuses se rendent en Israël pour y chercher des informations. Autrement dit,
pour vous, Martine Gosselin, malgré la situation politique inquiétante, il reste aujourd'hui des raisons d'admirer Israël.
Oui, il reste des raisons d'admirer Israël et de regarder les faits, le réel, à savoir que dans une région désintégrée, ce pays n'est pas désintégré. Il traverse aujourd'hui une crise constitutionnelle après la dissolution de la Knesset, et nous ne savons pas du tout ce qui se passera pour le verdict du scrutin du 17 septembre, mais il ne traverse pas une crise identitaire, et il ne traverse pas une crise existentielle.
Ça, vous ne serez pas d'accord, vous.
Réponse le 17 septembre.
C'est-à-dire
donc le 17 septembre, ce sont les élections générales israéliennes du fait de la dissolution de la Knesset. Donc, si effectivement Netanyahou gagne son pari sur ce qu'il y a de pire en Israël, la démagogie, la haine, la peur, la division, la calomnie, à ce moment-là, on peut vraiment s'inquiéter. Si, au contraire, il y a, comme je le souhaite, du fond du cœur, un sursaut, et qu'effectivement, on peut tourner la page Netanyahou et ouvrir une autre page de l'État d'Israël, alors effectivement, c'est d'ailleurs ma conclusion. Ma conclusion, c'est le titre de l'hymne israélien, c'est Hatikva, c'est l'espoir. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que Netanyahou a largement contribué à tuer une forme d'espoir qui était le moteur du projet sioniste.
Peut-être n'a-t-il pas tué complètement, nous le verrons le 17 septembre. Enfin, je pense en vous écoutant au discours quasiment testamentaire qu'avait prononcé John Kerry après la décision américaine de ne pas mettre son veto à une résolution du Conseil de sécurité condamnant la colonisation israélienne. Et John Kerry, il avait souligné l'ampleur du soutien militaire des États-Unis à Israël. Il condamnait le terrorisme, le double langage de l'autorité palestinienne, le Hamas, qui au lieu d'assurer une vie décente aux habitants de Gaza, détourne les matériaux de construction pour bâtir des tunnels et menacer un Israël d'attaques meurtrières contre les civils. Il disait même que les colonies ne sont pas la seule ni même la première cause du conflit, mais ces implantations n'ont pas pour but de renforcer la sécurité d'Israël, elles alourdissent le fardeau sécuritaire qui pèse sur Tsahal. Il affirmait que la solution des deux États était viable, et il disait qu'avec la multiplication des implantations, les Palestiniens vivaient dans des enclaves séparées, et il posait cette question limpide et profonde, quel Israélien accepterait cela ? Mais justement, et ce sera peut-être aussi un des enjeux des élections du 17 septembre. On ne parle pas beaucoup du processus de paix. Il n'empêche, et ça je voudrais avoir votre opinion là-dessus, que un mouvement s'est formé en Israël, il y a quelques mois, oui. 286 généraux à la retraite, de l'armée, du Mossad, du Shin Bet et de la police, se sont regroupés sous le nom de Commanders for Security. Ils analysent en détail les répercussions négatives de l'annexion de la Judée-Samarie, pour parler le langage d'Israël, sur la sécurité de ce pays. Donc, ils appellent à un gouvernement de séparation nationale. Le mot de séparation, ça m'évoque Jacob Talmon, les grands historiens, dans une lettre ouverte à Begin. De nos jours, le seul moyen d'aboutir à une coexistence entre les peuples, et bien que cela puisse paraître ironique et décevant, de les séparer. Alors, qu'en est-il justement de ce mouvement? Y a-t-il vraiment un lien entre eux et Benny Gantz, qui a formé le nouveau parti bleu-blanc? Et peut-on espérer quelque chose comme une relance de la victoire éventuelle de Benny Gantz aux élections?
Alors, le porte-parole du commandant pour la sécurité d'Israël m'a confirmé effectivement que leur programme avait été vu favorablement par Benny Gantz. C'est très clair. Attention, ça n'est pas du tout un programme de gauche. C'est pas le programme du retrait sur les frontières de 67. On n'en est pas du tout là. Et à mon sens, c'est beaucoup
même plus... la gauche n'en est plus là.
Non, la gauche n'en est plus là. Non. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus intelligent et c'est beaucoup plus réaliste. Parce que qui pourrait se retirer sur les frontières de 67? Quand je suis allée effectivement sur les collines des implantations qui devraient être évacuées, bien sûr, les gens me disaient, mais regardez, dans le lointain, vous voyez les tours Azrieli, les grandes tours de Tel Aviv, imaginez que quand le Hamas sera sur ses crêtes. Et c'est très vrai. Et c'est très vrai. Donc, le plan de commandant pour la sécurité d'Israël est un plan très pragmatique qui est contre l'annexion, mais qui vise un retrait de certaines zones et qui, en fait, se réinsère dans le rattachement, qui vise à rattacher à l'État d'Israël certaines grandes implantations qui, d'ailleurs, ont toujours été prévues quand il y avait des négociations, par les négociations. Donc, je pense que c'est un bon programme qui est soutenu par un certain nombre de stratèges et que Benny Gantz, qui a quand même dirigé, qui a été chef d'état-major, peut évaluer vraiment à sa juste mesure. Voilà. Mais je voudrais, mais sur le terme, on y reviendra, sur le terme d'irréversibilité qui est tellement agité en ce moment autour d'une pseudo-annexion, autour
C'est-à-dire qu'il y a quand même 400 000 colons aujourd'hui.
Oui, d'accord, mais il ne s'agit pas d'évacuer les 400 000 colons. Non. Il s'agit d'abord, il y a quand même trois zones, dont une seule zone qui est contrôlée intégralement par Israël. Mais le tout, c'est d'éviter l'annexion et de faire en sorte que cette séparation puisse se produire dans de bonnes conditions. Et là, j'en reviens à mon cher Amos Oz, mais je reviendrai tout à l'heure à un de ses textes qui est très très important, qui avait écrit une belle invitation, une belle invite qui s'appelait « Aidez-nous à divorcer ».
Aidez-nous à divorcer, oui. Et ce divorce est-il possible?
Ce divorce est envisageable, mais là encore, il faut se rappeler des deux précédents historiques lourds de conséquences que vous évoquiez, qui justement était fondée sur des retraits unilatéraux du Liban et de Gaza. L'unilatéralisme, c'est pratique parce qu'on négocie uniquement avec soi-même, donc on a son propre calendrier, mais donc on rejette l'autre dans une espèce de non-dit où inévitablement les extrémistes s'engouffrent.
Pourquoi est-ce inévitable? Pourquoi ne pouvait-on pas imaginer que les Palestiniens sur le territoire de Gaza veuillent d'abord assurer une vie décente à leurs citoyens?
C'est vraiment ce qu'ils
souhaitent. À cette démographie invraisemblable qui est utilisée au contraire, comme une arme de guerre. Après, imaginez, Jean-Pierre Filius, ce qui se serait passé si les Palestiniens avaient joué le jeu. Un gouvernement non corrompu.
Mais jouer quel jeu? S'il n'y a pas de négociation, on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ariel Sharon a refusé de négocier avec le successeur de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, les modalités du retrait de Gaza. Il a voulu le faire de manière unilatérale. Mahmoud Abbas, qui venait d'être élu et qui avait condamné la militarisation de la deuxième intifada, a été totalement marginalisé, ce qui, inévitablement, comme au Liban, a joué en faveur des militants armés, le Hezbollah au Liban en 2000, le Hamas en 2005. Un accord négocié de retrait avec l'autorité palestinienne aurait complètement changé les choses. Aujourd'hui, pour que ce soit clair, hein, qu'on ne croit pas que mes critiques ne s'adressent qu'à la direction israélienne, la double direction palestinienne est dans un état de faillite historique lamentable. Le Hamas a imposé un système policier despotique sur la bande de Gaza et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est complètement corrompue et impose elle aussi par ses services de sécurité une répression très dure à la population de Cisjordanie. Donc on a une faillite des deux branches du mouvement national palestinien.
Une faillite dont on ne peut pas dire complètement imputée à Israël.
Absolument pas. Mais est-ce une bonne nouvelle pour Israël? Bien sûr que non. Donc, est-ce qu'Israël peut faire, en étant effectivement, Martine Gosselin soulignait les records actuels d'Israël, faire comme si tout cela ne le concernait pas et c'était le problème des Palestiniens, alors que, aussi bien à Gaza indirectement qu'en Cisjordanie directement, elle passe son temps à régenter la vie palestinienne.
On peut revenir sur ce qui s'est passé très rapidement au sein du mouvement national palestinien. Il y avait de très grandes figures dans le mouvement national palestinien. J'ai eu le bonheur de rencontrer Sari Nusseibeh, le philosophe Sari Nusseibeh, et qui entretenait d'ailleurs un dialogue régulier avec les grands intellectuels et les grands pacifistes israéliens. Il a été bien sûr menacé de mort et mis à la retraite anticipée, exclu de son université par le Hamas. Et la voix de Sari Nusseibeh, qui était quand même, il faisait partie du bureau de l'OLP, a été totalement étouffée, menacée, et il me disait que le Hamas, pour lui, c'était comme un conte d'horreur victorien, parce que son épouse est britannique. Donc, la voix même du mouvement palestinien, qui aurait pu construire une Palestine, et c'est personnellement ce que je souhaite, un État palestinien viable, un État palestinien
voilà. Cette voix est étouffée. Mais alors,
cette voix était étouffée, les autres aussi.
Alors, regardons la carte.
Oui.
Est-ce qu'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza est viable? Oublions le contexte actuel. Ne serait-il pas plus naturel que se forme entre la Cisjordanie et la Jordanie une confédération pour que ce soit viable, assez étendu, et que un lien entre Gaza et l'Égypte puisse aider à résoudre le problème de Gaza? Car avec ces deux petits territoires, si vous voulez, l'un à l'est d'Israël et l'autre, non, à l'ouest d'Israël, au sud, on ne peut pas penser qu'un État peut surgir d'une telle situation géographique, aussi quand même, Jean-Pierre Filius.
Là encore, il faut s'inscrire dans la durée. On a essayé de réfléchir dans la durée sur le mouvement sioniste, la durée du mouvement national palestinien. Aujourd'hui, il est clair que ce mouvement a été vaincu, historiquement vaincu, et que les conditions de ce qu'on appelle le processus de paix sont les conditions de définition de la défaite palestinienne. En revanche, une fuite en avant du côté de l'Égypte où on pense le pire des Palestiniens de Gaza et du Hamas en particulier, du côté de la Jordanie qui ne veut absolument pas ce type de formule, est exclue. Une fois qu'il y aurait une forme d'entité palestinienne dont on peut espérer qu'elle aurait un statut étatique, toutes les formules sont possibles. Mais on ne peut pas faire l'impasse de cette étape. l'Europe. Et celle-ci implique, Netanyahou ne cesse de le dire, des concessions douloureuses. Alors là, en revanche, faut être très clair, depuis qu'il est au gouvernement en 2009, il n'a jamais fait la moindre proposition de paix aux Palestiniens. Voilà, faut quand même le savoir, le rappeler. Sur 10 ans, ça fait quand même un peu beaucoup.
Il y a eu des propositions de ressusciter les entretiens et les négociations avec les Palestiniens. Aujourd'hui on est au point mort. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, pour l'instant, on peut pas voir vers quel type d'État on pourrait se diriger, alors que les deux entités palestiniennes se haïssent, que l'autorité palestinienne, que l'OLP, les membres de l'OLP ont été tués, défenestrés lors de la prise du pouvoir par le Hamas à Gaza. Donc c'est quand même très 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 compliqué. On dit aussi que la présentation générale des événements qui ont eu lieu, des grandes manifestations qui ont eu lieu depuis un an et 3 mois à Gaza, la présentation de départ, et ça reste finalement un postulat, c'est que ces manifestations étaient pacifistes. Elles ne l'étaient nullement. Elles ont été orchestrées par le Hamas pour masquer, pour éluder son échec épouvantable. Vous l'avez dit, c'est un pouvoir despotique. C'est une tyrannie religieuse qui n'hésite pas à tirer sur son propre peuple. Les manifestations ont été orchestrées par un Hamas en perte de vitesse, concurrencé par le djihad islamique et par des éléments de Daesh. Daesh est présent à Gaza, l'État islamique.
Et puis ils envoyaient des ballons incendiaires.
Bien sûr.
Oui, mais alors, est-ce que un geste, les Israéliens n'auraient-ils pas pu faire au moins le geste de geler les implantations et aussi de démanteler un certain nombre d'implantations situées au-delà de celles qui sont adossées à la ligne verte et qui, dans le cadre d'un règlement, devraient revenir à Israël? Donc, il est vrai qu'aucun geste de bonne volonté
Absolument.
N'est venu d'Israël oui. sous la direction de Netanyahou.
Absolument, mais vous avez tout à fait raison. Simplement, on ne peut pas voir simplement un revers de la médaille. C'est-à-dire que tout cela a été entretenu, les extrémismes se sont nourris l'un de l'autre. Voilà. Il y a dans les territoires, dans Cisjordanie actuellement, quand vous allez d'implantation en implantation, c'est quand même un fleuve de sang et il y a des victimes israéliennes dont on n'évoque jamais la tragédie.
Un mot pour finir, Jean-Pierre Fédu.
Je le dis, l'espoir. L'espoir, oui. L'espoir que Israël, sa démocratie, ses institutions vont retrouver le fil du rêve des pères fondateurs.
Et justement, Amos Oz disait que le mot irréversible était très prisé par l'extrême droite d'une part et les cercles post-sionistes et antisionistes d'autre part, qui semblent avoir conclu un pacte secret. Or, l'expérience, disait Amos Oz, décédé en décembre dernier, l'expérience m'a appris qu'au Moyen-Orient, les mots pour toujours, jamais et à aucun prix peuvent signifier entre 6 mois et 30 ans.
Merci beaucoup pour cette double conclusion. Je rappelle le titre de vos livres, Martine Gosselin, Israël, 70 ans, 7 clés pour comprendre, aux éditions L'Archipel, et Jean-Pierre Fillu, Main bas sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, à la découverte. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Anna Holweck. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.